VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 18 février 2022, essentiellement consacrée au retrait militaire de la France et de ses partenaires européens du Mali. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Jacques Aristide.
Et nous aurons aussi en notre page sport ainsi que la Minute Éco, pour l'instant le journal.
Et donc, la France et ses partenaires européens ont officialisé hier leur retrait militaire du Mali. Ils souhaitent toutefois rester engagés dans la région sahélienne et étendre leur soutien aux pays voisins du Golfe de Guinée, selon une déclaration signée par 25 pays européens, africains et le Canada. Nathalie Barge a fait le point.
En raison de multiples obstructions des autorités de transition maliennes issues de deux coups d'État, la France et les États européens membres de la force Takuba ont décidé d'entamer le retrait coordonné du territoire malien de leurs moyens militaires, souligne-t-il. L'Union européenne va vérifier si des conditions sont réunies pour la poursuite de ces deux missions de formation sur place. Selon le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, le porte-parole de la mission de l'ONU au Mali, Olivier Salgado, a déclaré que le retrait des forces françaises aura un impact et que la MINUSMA fera le nécessaire pour s'adapter. La ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht, s'est dit sceptique quant à la prolongation de la mission des soldats allemands engagés dans les missions de l'Union européenne et de l'ONU. Londres a également dit réfléchir sur son engagement dans la MINUSMA. Environ 25 000 militaires sont déployés au Sahel, dont 4 300 Français. La fermeture des dernières bases françaises à Gao, Ménaka et Gossi peut prendre jusqu'à 6 mois, selon le président Emmanuel Macron. Des soldats de la force Takuba seront repositionnés aux côtés des forces armées nigériennes, a-t-il précisé. Le Niger héberge déjà 800 militaires français. Au final, la France comptera environ 3000 troupes au Sahel, réparties entre le Tchad, le Niger et le Burkina Faso, et s'appuiera sur ses forces prépositionnées au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Gabon pour proposer un appui aux pays de la région.
L'armée malienne va devoir affronter les groupes djihadistes sans la France et ses partenaires. Le retrait des forces Barkhane et Takuba suscite la crainte du vide dans un pays au cœur d'une crise sécuritaire, Nanit Talani.
L'opération Barkhane n'a pas abouti aux résultats escomptés. Ils n'ont pas éradiqué le djihadisme, affirme Boubacar Aïdara, chercheur et universitaire malien. Malgré le déploiement de forces françaises, onusiennes ou africaines, l'armée malienne n'a pas réussi à endiguer l'extension djihadiste, partie en 2012 du nord du Mali, pour gagner le centre et les pays voisins, jusqu'à menacer à présent le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Golfe de Guinée. Richard Moncrief, expert à l'International Crisis Group, note que le Mali semble désormais privilégier l'aide militaire apportée par les Russes. Mais selon lui, il est peu probable que les Russes parviennent à mieux faire. Bakary Samb, directeur de l'Institut de Tombouctou, doute de la capacité du groupe russe Wagner ou de la Russie à résoudre les problèmes maliens, à faire face à des organisations transfrontalières, soulignant que Moscou a peu d'agilité diplomatique et de connaissances du terrain ouest-africain. La France et ses partenaires envisagent d'étendre leur soutien à d'autres pays d'Afrique de l'Ouest et du Golfe de Guinée pour contenir la potentielle expansion des groupes armés.
À N'Djamena, au Tchad, certains sont d'avis que la présence des militaires étrangers n'a apporté aucun changement à l'instabilité prévalente au Mali. Mais d'autres craignent que leur départ ne puisse provoquer une insécurité dans toute la région sahélienne. Quelques réactions recueillies sur place par l'AFP.
Quand on dit que la France va se retirer, nous d'autres, on a le cœur qui bat.
Puisque depuis ce sont là, ils nous ont dit, il n'y a aucun changement. Ça fait des années, et il y a des dégâts normalement, du norme. Alors, ils ont quitté la voie de venir juste pour amener la stabilité dans le pays. Mais leur présence ne change aucune chose. Donc, nous, on souhaite qu'ils quittent.
Inquiet, pourquoi pas, quand je dis déjà que les forces islamistes sont en train de s'affronter, qui peut ne pas penser qu'il y a une main derrière? Qui sait que si ce n'est pas l'armée française qui est en train de pousser à ce qu'on demande leur maintien, on ne sait jamais. Mais toujours est-il qu'il faut toujours déstabiliser pour qu'on redemande le retour des troupes françaises. On en a vu aussi au Tchad.
Ça peut déstabiliser le Mali, vu que le Mali en tant que tel n'était pas fort sur les termes de l'armée. Et même en personne, ils n'ont pas pu assurer leur sécurité à eux. Donc je pense que ça peut créer genre un truc s'ils ne trouvent pas vite une solution à cela.
Je crains la sécurité dans la zone sahélienne, puisque la France a toujours intervenu dans des différents cas. Au Mali, au Niger, ils ont beaucoup intervenu, même au Tchad. Et on craint franchement quel sera le résultat ou bien ce qui va se passer à l'avenir.
C'est le dernier jour du sommet Union africaine et Union européenne à Bruxelles pour réinventer leur partenariat et affronter des défis communs. Il s'est ouvert hier, quelques heures après l'officialisation par la France et ses alliés de leur retrait militaire du Mali. Le point avec Lionel Gahima.
40 de 55 dirigeants de l'Union africaine sont réunis avec leurs homologues de l'Union européenne pour le sixième sommet des deux organisations. L'Afrique est en pleine mutation, plus qu'une mise à jour du logiciel. Nous proposons d'installer ensemble un nouveau logiciel, a expliqué le président de l'Union africaine, le Sénégalais Macky Sall, qui appelle à un nouveau départ. « Nous devons réinventer la relation », a reconnu le président français Emmanuel Macron. L'Europe a besoin d'une Afrique stable, sûre et prospère, a renchéri Charles Michel, président du Conseil européen. La lutte contre la pandémie est une autre priorité, car seulement 11% de la population africaine est entièrement vaccinée. Aussi, pour Macky Sall, l'Afrique n'est pas responsable du réchauffement climatique. Il réclame un accompagnement pour donner l'électricité aux 600 millions d'Africains qui n'en ont pas, soit un Africain sur deux. Une déclaration commune sera adoptée aujourd'hui, accompagnée d'une liste de projets, dont une constellation de satellites pour élargir l'accès à l'Internet en Afrique.
Nous reviendrons avec nos collègues et correspondants sur place au Mali et dans les pays voisins sur les réactions au retrait militaire de la France et de ses partenaires européens. Ce sera en seconde partie de cette édition.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste de l'actualité, au Niger, le ministère de la Défense a annoncé hier dans un communiqué que 5 soldats nigériens ont été tués mercredi dans l'explosion d'une mine artisanale dans le département de Gotei. Ce département est situé dans la région de Tillaberi, c'est-à-dire dans la zone dite des trois frontières entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali, devenu un repère des djihadistes sahéliens dont l'État islamique au Grand Sahara.
Au Mozambique, l'ex-président Armando Guebuza a défendu hier à la barre des témoins du procès du scandale de corruption de la dette cachée la décision de son gouvernement de contracter secrètement d'énormes emprunts bancaires, 2 milliards de dollars, ayant conduit alors les bailleurs internationaux, dont les FMI, à se retirer du pays, provoquant une grave crise financière.
Et Idrissa, un audit indépendant mené par la suite, a découvert que sur les sommes empruntées, 500 millions de dollars avaient été détournés et restent introuvables. L'ancien président n'est pas inculpé dans cette affaire, mais son fils aîné, Nambi Guebuza, compte parmi les 19 accusés, tous des proches du pouvoir de l'époque, jugés pour chantage, faux détournement de fonds et blanchiment.
Et Jacques, comme vous le savez, l'Ukraine et la Russie continuent de dominer l'actualité internationale.
En effet, Idrissa, le président américain Joe Biden a jugé jeudi très élevé et imminent le risque d'une attaque russe contre l'Ukraine, balayant les récentes assurances de Moscou sur un retrait partiel de ses forces positionnées depuis des semaines à la frontière ukrainienne. Par ailleurs, la Russie a été accusée de mettre en danger la sécurité de l'Europe avec des exigences datant de la guerre froide.
C'est ce qu'est estime la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, avant la conférence annuelle de Munich sur la sécurité qui sera dominée par la crise ukrainienne. Avec un déploiement sans précédent de troupes à la frontière avec l'Ukraine et des exigences datant de la guerre froide, la Russie remet en cause les principes fondamentaux de l'ordre de paix européen, a déclaré la chef de la diplomatie allemande dans un communiqué. La Minute Éco, Nanit Talani.
Les exportations de pétrole de l'Angola, deuxième plus grand producteur de brut d'Afrique subsaharienne, ont augmenté de 3% au cours des trois derniers mois, alors que les prix de l'énergie montent en flèche. Luanda a engrangé 7,8 milliards de dollars grâce aux exportations de pétrole entre octobre et décembre. Le baril a valu en moyenne 79 dollars. L'Angola a exporté 394 millions de barils l'an dernier. Au Congo-Brazzaville, le nouveau plan national de développement 2022-2026 consacre 26 milliards de francs CFA contre 65 milliards de francs CFA initialement prévus à la route Bundi-Evo sur la Nationale 2, restée inachevée depuis 2011. Le bitumage de cette voie permettra des échanges entre les départements de la cuvette ouest et la cuvette centrale et va faciliter l'installation des équipements électriques. Terminons par l'Europe qui compte investir plus de 150 milliards d'euros en Afrique dans les 7 prochaines années, a annoncé la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen jeudi à Dakar au Sénégal. L'argent ira aux énergies renouvelables, à la réduction des risques de catastrophes naturelles, à l'accès au réseau Internet, au transport, à la production de vaccins ou à l'éducation. C'est le tout premier plan régional sous Global Gateway, une initiative européenne censée mobiliser jusqu'à 300 milliards d'euros de fonds publics et privés d'ici à 2027 dans des projets d'infrastructure à travers le monde.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Dernier tour des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2022. 5 matchs au programme ce vendredi. Nigeria-Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud fait face à l'Algérie. La Tunisie reçoit la Guinée équatoriale, le Cameroun joue la Gambie et le Zimbabwe reçoit le Botswana. Mercredi, Burkinabé et Burundaise ont fait un grand pas vers la phase finale. Le Burkina Faso a corrigé la Guinée-Bissau 6-0. Et le Burundi a étrié Djibouti 6-1. Dans le derby, le Sénégal s'est imposé face au Mali 1-0. Deux pays qualifiés sur 12 sont connus, le Maroc, pays hôte, et l'Ouganda, parce que le Kenya a déclaré forfait. En Europe, le FC Barcelone et Naples ont fait match nul 1-1 au Camp Nou hier, lors du choc des barrages allés de la Ligue Europa. Reversé en Ligue Europa après une phase de groupe très décevante en Ligue des Champions, le Barça a concédé l'ouverture du score avant d'égaliser sur pénalty par sa recrue hivernale Ferran Torres. De son côté, le Borussia Dortmund a sombré à domicile face aux Glasgow Rangers, vainqueur 4-2. Les Allemands, actuels deuxièmes de Bundesliga, 6 points derrière le Bayern, étaient privés pour cette première manche de leur buteur norvégien Erling Haaland, blessé. En France, David Guillon a été nommé entraîneur des Girondins de Bordeaux. Jusqu'à la fin de la saison, annonce le club Lanterne Rouge de la Ligue 1. L'ex-entraîneur de Reims, 54 ans, remplace l'ancien sélectionneur de la Suisse, Vladimir Petkovic, limogé pour insuffisance de résultats. David Guillon va pouvoir apporter toute son expertise et son expertise du football français, de vrais atouts dans la perspective du maintien du club dans l'élite du championnat de France, assure dans un communiqué le club girondin, qui détient la pire défense des 5 grands championnats d'Europe, 61 buts encaissés en 24 journées, après des débuts comme entraîneur au SO Chambéry en CFA 2 en 2010, puis l'AS Cannes en CFA en 2011. Cet ancien défenseur a permis au Stade de Reims de monter en 2018 en première division en étant sacré champion de France de Ligue 2. Il a reçu cette même année la distinction de meilleur entraîneur de Ligue 2. Basketball, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Philadelphie et Milwaukee 123-120, Dallas et la Nouvelle-Orléans 125-118, Washington et Brooklyn Nets 117-103, Miami et Charlotte 111-107.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Retour sur la décision de la France et de ses partenaires européens de se retirer militairement du Mali après 9 ans de lutte anti-djihadiste menée par Paris. Des militaires européens participant au groupement Takuba seront repositionnés aux côtés des forces armées nigériennes. Cette décision a été entérinée par 26 pays européens, africains et le Canada. Le Mali était au cœur du dispositif antiterroriste français et européen au Sahel. Pour comprendre l'impact de ce retrait, Eric Manirakidza a joint à Dakar, au Sénégal, l'analyste politique Ibrahima Kan.
Ça dénote une perte d'influence de la France dans la sous-région. Quelque chose est en train d'évoluer dans les relations entre la France et l'Afrique. Cela vraiment montre que beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Ce qui est en train de s'opérer aussi au Mali, quand on regarde de plus près, ça montre que la France, de plus en plus, est en train de perdre son rôle de leadership politique, économique et militaire, et peut-être au plan géopolitique. Parce qu'en quittant le Mali, la France montre qu'elle est aujourd'hui incapable de remplir le rôle de protecteur des pays africains et dans la sous-région. Parce qu'aux yeux, pas seulement des gouvernants, mais aussi aux yeux des populations, la France n'est plus capable de jouer le rôle qu'il a joué par le passé, qui sont en train d'établir parce que les relations anciennes ont complètement changé. Il n'y a plus de domaine réservé pour les anciennes puissances coloniales en Afrique. Et c'est ce que cette crise-là est en train de démontrer.
Il y a aussi la montée de ce discours populiste.
Vous faites bien de poser cette question parce que cette question a plusieurs aspects. Vous savez, ce discours populiste, il est souvent mis en avant par des militaires au Mali, en Guinée, qui cherchent le soutien populaire pour rester au pouvoir. Et cela est tellement clair dans le cas du Mali qu'aujourd'hui, la France a permis aux militaires de vraiment mobiliser la population pour essayer de rester au pouvoir. Mais ce discours populiste n'a pas empêché une organisation comme la CEDEAO de prendre ses responsabilités par rapport à un certain nombre de principes et de règles concernant la gouvernance dans nos pays. Malgré tout ce discours populiste, la CEDEAO n'a pas accepté de négocier avec les régimes militaires pour leur maintien au pouvoir. Et ça montre en même temps les limites de ce discours populiste et ça montre qu'en Afrique maintenant, surtout dans cette partie occidentale, les dirigeants sont en train de prendre leurs responsabilités pour qu'il soit mis un terme à ces changements anticonstitutionnels de gouvernement. Ce discours populiste ne peut pas faire barrage à cette stratégie-là que la CEDEAO est en train de déployer au Mali et dans la sous-région et qui semble commencer à porter ses fruits.
À qui profite ce retrait?
Aux États africains eux-mêmes, parce que vous imaginez lorsqu'il y a eu cette crise au nord du Mali, c'est la France qui a volé au secours du Mali à la demande, à l'époque, dit-on, des autorités maliennes, alors que ces autorités maliennes auraient pu faire appel à la solidarité des États membres de la CEDEAO pour gérer cette situation, mais ils ont préféré faire appel à la France. Aujourd'hui que la France est partie, je pense que c'est le moment aussi pour les États de l'Afrique de l'Ouest de repenser leur sécurité ensemble. Et cela ne me paraît pas une chose impossible dans la mesure où, par le passé, notamment lors des crises que le Libéria et la Sierra Leone avaient connues, c'est la CEDEAO qui a sauvé ces pays-là, grâce au leadership nigérien de l'époque, avec l'appui des armées ghanéennes, burkinabées et autres. C'est ce genre de leadership qu'on veut voir renaître et le départ de la France donne la possibilité à ces États-là de s'asseoir et de repenser leur propre sécurité, qui doit être collectif ou pas. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui laisser se développer, se renforcer ces actions dans la région des trois frontières. Il faut que les États de la région eux-mêmes prennent en charge leur propre sécurité dans le cadre de la CEDEAO et peut-être avec le soutien de l'Union africaine. Je pense que c'est un défi qui leur est lancé.
Ibrahima Kan, analyste politique joint à Dakar au Sénégal. La ville de Gao abrite l'une des plus importantes bases de l'opération Barkhane qui doit quitter le Mali. C'est aussi dans cette ville que les djihadistes ont commis le plus d'atrocités en 2012 avec des amputations de bras et des flagellations publiques. Comment les populations réagissent-elles à l'annonce du retrait des troupes françaises? Abdourahman Dia a joint sur place notre correspondant Boubacar Touré.
Il faut dire que les troupes françaises sont basées à Gao, à Gouchi et à Menaka. Les populations, d'une manière générale, sont inquiètes. Elles sont inquiètes, d'autant plus que depuis que la force Barkhane est arrivée ici, d'abord la force Herbal, qui a libéré la région du Gao, parce qu'il faut rappeler qu'en 2012, Gao, la plus grande ville du Mali, a été occupée par les terroristes. C'est là où on a amputé des pieds, on a amputé des bras, c'est là où on a flagellé des gens en public, et les gens ont en mémoire tout cela. Est-ce qu'aujourd'hui, si ces forces françaises, ces forces étrangères qui sont là, alors quittent Gao, est-ce que ce n'est pas le même scénario qu'ils vont essayer de revivre ce qu'ils ont alors qu'ils ne parlent pas en 2012? Voilà la grande inquiétude des populations de Gao. Et en plus, la présence de ces forces étrangères ici ont donné aussi de l'emploi à la jeunesse de Gao. Et il y a des centaines de jeunes, des milliers de jeunes, alors qu'ils travaillent soit à la force Barkhane, soit à l'AMUNISMA. Alors cela a amené, n'est-ce pas, à baisser, n'est-ce pas, le chômage dans la ville de Gao. Est-ce que ceci ne va pas amener, n'est-ce pas, à aller voir dans une autre direction? Le troisième aspect qui inquiète les gens, il faut le dire, la force Barkhane ici, n'est-ce pas, dans le domaine de la santé, a une bonne clinique ici, au niveau du camp, où les malades, n'est-ce pas, au niveau de l'hôpital, au niveau des CCRF, alors, sont transférés souvent, n'est-ce pas, dans cette clinique de Barkhane, où ils bénéficient de traitements très spécialisés.
Est-ce qu'on remarque à Gao la présence des forces armées maliennes en grand nombre?
Bon, à Gao, un très grand nombre, comme ce qui est en train de se passer dans le centre du Mali, non. Pourtant, il y a des militaires. Il y a des militaires qui sont là à Gao. Il y a des militaires qui sont ici dans le camp de Gao. Et ils sont visibles, mais ils ne sont pas en très grand nombre, comme on doit le penser, on doit le croire, pour pouvoir en réalité sécuriser toute la zone, n'est-ce pas, de Gao à Menaka, de Gao à Bourem, de Gao jusqu'à frontière Tomboki et de Kidal. J'ajouterais que Gao vit aussi, n'est-ce pas, coupé du monde parce que ça nous fait bien trop plus de 7 à 8 mois que nous n'avons pas l'Internet ici à Gao et c'est des difficultés majeures. Les gens vraiment vivent dans une calvaire totale.
Voilà, c'était notre correspondant à Gao, Boubacar Touré. La Mauritanie, elle, n'a pas à s'inquiéter du départ des forces françaises du Mali. Elle doit tout de même rester sur ses gardes pour parer à toute éventualité, car la sous-région est en mutation sécuritaire. C'est l'avis d'experts mauritaniens interrogés par notre correspondant à Nouakchott, Mohamed Diop.
Le départ des troupes françaises et européennes du Mali ne doit pas affecter la sécurité de la Mauritanie voisine, d'après Ahmed Ould Abdellah, ancien diplomate mauritanien et président du Centre des stratégies pour la sécurité du Sahel, SARA, Centre 4S.
La Mauritanie a démontré une certaine responsabilité dans la gestion des frontières communes avec le Mali. Depuis 2012-2013, il n'y a pas eu d'attaque spectaculaire ou visible venant du Mali sur la Mauritanie. Et il faut espérer que cela continue.
Encore une chance, Nouakchott n'est plus dans le viseur des groupes armés opérant dans le nord du Mali, ajoute-t-il.
Terroristes ou djihadistes, ou comme on veut les appeler, semblent une descente vers le sud, vers la côte. Du côté du golfe de Bénin et du golfe de Guinée.
Et selon l'ex-diplomate, la Mauritanie a aussi développé une bonne politique antiterroriste.
Des gens pensent qu'en Mauritanie, la politique humaine, la politique sécuritaire et des tas d'autres considérations épargnent au pays actuellement et à ses forces de sécurité d'être directement impliquées dans les crises.
Malgré tout, des populations mauritaniennes payent le prix de l'instabilité au Mali, note ce journaliste mauritanien spécialiste des questions sécuritaires, Imam Dine Ahmeddou.
Souvenez-vous, il y a 2 ans, des religieux mauritaniens ont été tués au Mali. Et récemment, moins d'un mois, 7 mauritaniens ont été abattus sur la frontière mauritano-malienne. L'incident avait même mobilisé une forte délégation ministérielle mauritanienne au Mali. Cela sans compter les milliers de réfugiés maliens en Mauritanie, dont une bonne partie s'active dans la mendicité à Nouakchott.
Mais si globalement Nouakchott est dans une bonne posture sécuritaire, cela n'empêche pas d'être vigilant, dit l'écrivain mauritanien spécialiste du Sahel, Ismaël Oudcher Sidia.
Je crois que la Mauritanie va renforcer ce qu'on appelle les groupements spéciaux antiterroristes, qui sont au nombre de 12, les frontières mauritano-maliennes qui font 2400 km à peu près.
Pour l'écrivain, la Mauritanie devra même s'adapter à la nouvelle situation régionale, marquée selon lui par le manque de coordination entre les armées du G5 Sahel, en raison des coups d'État au Tchad, au Mali et au Burkina Faso. Mohamed Diop pour VOA Afrique. Nouakchott.
Lors d'une conférence de presse à l'Élysée, le président français Emmanuel Macron a donc précisé que les opérations militaires ne seront plus au Mali, mais au Niger, notamment dans la zone des trois frontières. Au micro de notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa, quelques réactions de citoyens nigériens.
La force Barkhane cherche quoi ? La redéploie au Niger, pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle a fait pour qu'il puisse susciter la motivation de la maintenir ou de la redéployer? Elle devrait agir le plus au Mali. Le Mali n'en veut plus. Mais pourquoi nous, on va accepter qu'elle revienne chez nous? Le Niger n'a pas intérêt. Les Africains, les Sahéliens en général, l'histoire, le temps a révélé la réalité. Et la réalité révélée par l'histoire, par le temps, n'est pas en faveur de la présence de Barkhane dans le Sahel.
Ce n'est pas nous seulement, et toute la jeunesse et l'opinion africaine ne veulent pas de la présence Barkhane. Parce qu'on considère que c'est une présence impertinente, parce qu'après 9 ans d'existence, les terroristes continuent à nous agresser, et vous avez constaté que des individus viennent en moto et nous agressent. Malgré le déploiement de cette force-là, malgré les moyens mis à la disposition de cette force-là, on continue à nous agresser. Donc on pense bien qu'ils n'ont qu'à plier bagages et partir. Quitter notre territoire, peut-être permettre à notre armée d'accomplir sa mission régalienne. Et surtout que Barkhane est illégal et illégitime. Illégal parce que l'Assemblée nationale n'a pas parlé de Barkhane. Et illégitime parce qu'il y a un rejet total des populations. Donc je pense bien que le souhait que Barkhane plie bagage et retourne en France.
Je suis contre. On n'a pas besoin de présence militaire, en tout cas physique, engagée aux côtés de nos forces. On a besoin de matériel. On a besoin de renseignements. Nous avons les hommes capables, nos armées sont capables, elles connaissent le contexte de nos pays, elles connaissent les réalités de nos pays, elles connaissent, si vous voulez, le terrain mieux que quiconque. Ce qui nous fait défaut, très souvent, c'est pas le point de vue opérationnel, mais c'est le point de vue tactique. Ce sont les questions liées aux renseignements, les questions en lien avec le matériel, donc de pointe. Je ne pense pas que, même si la force Barkhane aujourd'hui serait déployée au Niger, si ça va être en tout cas une sorte de sitting ou si ça va être une prise de place, ça va peut-être être un redéploiement temporaire, le temps que peut-être au plan international les discussions puissent avancer et qu'une solution soit trouvée par rapport à la présence de ces forces européennes ou occidentales sur le sol de nos pays. Il est clair qu'ils ne viendront pas pour siéger. S'ils n'ont pas pu siéger au Mali, ils ne viendront pas pour s'installer au Niger. En tout cas, ça c'est mon avis le plus profond.
Avec ces réactions de Nigériens recueillies à Niamey par notre correspondant Abdulrazak Idrissa, s'achève cette édition matinale du Monde Aujourd'hui VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi au micro Idrissa Sidudia et Jacques Aristide, à la mise en onde Lionel Gahima et à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour en suivre de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.